Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette seconde et dernière émission d'avril 2010, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirite de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la Jeunesse. Nous terminerons par divers communiqués de nos partenaires, et notamment l'agenda des activités programmées pour les mois à venir. Nous devons également de vous rappeler que vous avez la possibilité de laisser vos commentaires sur le contenu de nos émissions, et ceci directement sur le site de Radio Kardec. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle vous invite à poursuivre le chapitre 13, traitant des miracles selon le spiritisme, et plus particulièrement des miracles dans le sens théologique, du point numéro 2 à 3, et de poursuivre par le spiritisme ne fait pas de miracles, du point 4 à 10.
La jeunesse selon le spiritisme. Les miracles selon le spiritisme. Suite du chapitre 13. Caractère des miracles. Les miracles dans le sens théologique. Suite. Point 2. La science fait tous les jours des miracles aux yeux des ignorants. Qu'un homme réellement mort soit rappelé à la vie par une intervention divine, c'est là un véritable miracle parce que c'est un fait contraire aux lois de la nature. Mais si cet homme n'a que les apparences de la mort, s'il y a encore en lui un reste de vitalité latente et que la science ou une action magnétique parvienne à le ranimer, pour les gens éclairés, c'est un phénomène naturel. Mais aux yeux du vulgaire ignorant, le fait passera pour miraculeux. Qu'au milieu de certaines campagnes, un physicien lance un cerf-volant électrique et fasse tomber la foudre sur un arbre, ce nouveau Prométhée sera certainement regardé comme armé d'une puissance diabolique. Mais Josué, arrêtant le mouvement du soleil, ou plutôt de la terre, en admettant le fait, voilà le véritable miracle, car il n'existe aucun magnétiseur doué d'une assez grande puissance pour opérer un tel prodige. Les siècles d'ignorance ont été féconds en miracles, parce que tout ce dont la cause était inconnue passait pour surnaturel. À mesure que la science a révélé de nouvelles lois, le cercle du merveilleux s'est restreint. Mais comme elle n'avait pas exploré tout le champ de la nature, il restait encore une assez large part au merveilleux. Point 3. Le merveilleux, expulsé du domaine de la matérialité par la science, s'est retranché dans celui de la spiritualité, qui a été son dernier refuge. Le spiritisme, en démontrant que l'élément spirituel est une des forces vives de la nature, force incessamment agissante, concurremment avec la force matérielle, fait rentrer les phénomènes qui en ressortent dans le cercle des effets naturels, parce que, comme les autres, ils sont soumis à des lois. Si le merveilleux est expulsé de la spiritualité, il n'a plus de raison d'être, et c'est alors seulement qu'on pourra dire que le temps des miracles est passé. Entre parenthèses, voir chapitre 1, numéro 18. Fermez la parenthèse. Le spiritisme ne fait pas de miracles. Point 4. Le spiritisme vient donc, à son tour, faire ce que chaque science a fait à son avènement. Révéler de nouvelles lois et expliquer par conséquent les phénomènes qui sont du ressort de ces lois. Ces phénomènes, il est vrai, se rattachent à l'existence des esprits et à leur intervention dans le monde matériel. Or c'est là, dit-on, qu'est le surnaturel. Mais alors, il faudrait prouver que les esprits et leurs manifestations sont contraires aux lois de la nature, que ce n'est pas et ne peut être là une de ces lois. L'esprit n'est pas autre que l'âme qui survit au corps. C'est l'être principal, puisqu'il ne meurt pas, tandis que le corps n'est qu'un accessoire qui se détruit. Son existence est donc tout aussi naturelle après que pendant l'incarnation. Elle est soumise aux lois qui régissent le principe spirituel, comme le corps est soumis à celles qui régissent le principe matériel. Mais comme ces deux principes ont une affinité nécessaire, qu'ils réagissent incessamment l'un sur l'autre, que de leur action simultanée résulte le mouvement et l'harmonie de l'ensemble, il s'ensuit que la spiritualité et la matérialité sont les deux parties d'un même tout, aussi naturelles l'une que l'autre, et que la première n'est pas une exception, une anomalie dans l'ordre des choses. Point 5. Pendant son incarnation, l'esprit agit sur la matière par l'intermédiaire de son corps fluidique ou périsprit. Il en est de même en dehors de l'incarnation. Il fait, comme esprit et dans la mesure de ses capacités, ce qu'il faisait comme homme. Seulement, comme il n'a plus son corps charnel pour instrument, il se sert, lorsque cela est nécessaire, des organes matériels d'un incarné qui devient ce qu'on appelle médium. Il fait comme celui qui, ne pouvant écrire lui-même, emprunte la main d'un secrétaire, ou qui, ne sachant pas une langue, se sert d'un interprète. Un secrétaire, un interprète, sont les médiums d'un incarné, comme le médium est le secrétaire ou l'interprète d'un esprit. Point 6. Le milieu dans lequel agissent les esprits et les moyens d'exécution, n'étant plus les mêmes que dans l'état d'incarnation, les effets sont différents. Ces effets ne paraissent surnaturels que parce qu'ils sont produits à l'aide d'agents qui ne sont pas ceux dont nous nous servons. Mais dès l'instant que ces agents sont dans la nature et que l'effet de manifestation s'accomplisse en vertu de certaines lois, il n'y a rien de surnaturel ni de merveilleux. Avant de connaître les propriétés de l'électricité, les phénomènes électriques passaient pour des prodiges aux yeux de certaines gens. Dès que la cause fut connue, le merveilleux disparut. Il en est de même des phénomènes spirites, qui ne sortent pas plus de l'ordre des lois naturelles que les phénomènes électriques, acoustiques, lumineux et autres, qui ont été la source d'une foule de croyances superstitieuses. Point 7. Pourtant, dira-t-on, vous admettez qu'un esprit peut enlever une table et la maintenir dans l'espace sans point d'appui. N'est-ce pas une dérogation à la loi de gravité? Oui, à la loi connue. Mais connaît-on toutes les lois? Avant qu'on eût expérimenté la force ascensionnelle de certains gaz, qui eût dit qu'une lourde machine portant plusieurs hommes peut triompher de la force d'attraction? Aux yeux du vulgaire, cela ne devait-il pas paraître merveilleux, diabolique? Celui qui eût proposé, il y a un siècle, de transmettre une dépêche à 500 lieues et d'en recevoir la réponse en quelques minutes aurait passé pour un fou. S'il l'eût fait, on aurait cru qu'il avait le diable à ses ordres, car alors le diable seul était capable d'aller aussi vite. Cependant, aujourd'hui, la chose est non seulement reconnue possible, mais elle paraît toute naturelle. Pourquoi donc un fluide inconnu n'aurait-il pas la propriété, dans des circonstances données, de contrebalancer l'effet de la pesanteur, comme l'hydrogène contrebalance le poids du ballon? C'est en effet ce qui a lieu dans le cas dont il s'agit. Entre parenthèses, voir Livre des médiums, chapitre 4. Fermez la parenthèse. Point 8. Les phénomènes spirites, étant dans la nature, se sont produits dans tous les temps. Mais précisément parce que leur étude ne pouvait se faire par les moyens matériels dont dispose la science vulgaire, ils sont restés plus longtemps que d'autres dans le domaine du surnaturel, d'où le spiritisme les fait sortir aujourd'hui. Le surnaturel, basé sur des apparences inexpliquées, laisse un libre cours à l'imagination, qui, errant dans l'inconnu, enfante alors les croyances superstitieuses. Une explication rationnelle, fondée sur les lois de la nature, ramenant l'homme sur le terrain de la réalité, pose un point d'arrêt aux écarts de l'imagination et détruit les superstitions. Loin d'étendre le domaine du surnaturel, le spiritisme le restreint jusque dans ses dernières limites et lui ôte son dernier refuge. S'il fait croire à la possibilité de certains faits, il empêche de croire à beaucoup d'autres, parce qu'il démontre, dans le cercle de la spiritualité, comme la science dans le cercle de la matérialité, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Toutefois, comme il n'a pas la prétention d'avoir le dernier mot sur toutes choses, même sur celles qui sont de sa compétence, Il ne s'oppose point au régulateur absolu du possible et fait la part des connaissances que réserve l'avenir. Point 9. Les phénomènes spirites consistent dans les différents modes de manifestation de l'âme ou esprit, soit pendant l'incarnation, soit à l'état d'erraticité. C'est par ces manifestations que l'âme révèle son existence, sa survivance et son individualité. On la juge par ses effets. La cause étant naturelle, l'effet l'est également. Ce sont ces effets qui font l'objet spécial des recherches et de l'étude du spiritisme afin d'arriver à la connaissance aussi complète que possible de la nature et des attributs de l'âme ainsi que des lois qui régissent le principe spirituel. Point 10. Pour ceux qui dénient l'existence du principe spirituel indépendant et par suite celle de l'âme individuelle et survivante, toute la nature est dans la matière tangible. Tous les phénomènes qui se rattachent à la spiritualité sont à leurs yeux surnaturels et par conséquent chimériques. N'admettant pas la cause, ils ne peuvent admettre les faits. Et lorsque les effets sont patents, ils les attribuent à l'imagination, à l'illusion, à l'hallucination et refusent de les approfondir. De là chez eux une opinion préconçue qui les rend impropres à juger sainement du spiritisme parce qu'ils partent du principe de la négation de tout ce qui n'est pas matériel.
Poursuivons notre lecture du jour par la suite du 13e chapitre de la Genèse, traitant du caractère des miracles. Le spiritisme ne fait pas de miracles. Suite point 11 à 14. Dieu fait-il des miracles? Des points 15 à 16.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 13, caractère des miracles. Le spiritisme ne fait pas de miracles. Suite. Point 11. De ce que le spiritisme admet les effets qui sont les conséquences de l'existence de l'âme, il ne s'ensuit pas qu'il accepte tous les effets qualifiés de merveilleux et qu'il entende les justifier et les accréditer. Qu'il se fasse le champion de tous les rêveurs, de toutes les utopies, de toutes les excentricités systématiques, de toutes les légendes miraculeuses. Il faudrait bien peu le connaître pour penser ainsi. Ses adversaires croient lui opposer un argument sans réplique, quand, après avoir fait d'érudites recherches sur les convulsionnaires de Saint-Médard, les camisards des Cévennes ou les religieuses de Loudun, ils sont arrivés à y découvrir des faits patents de supercherie que personne ne conteste. Mais ces histoires sont-elles l'évangile du spiritisme? Ses partisans ont-ils nié que le charlatanisme ait exploité certains faits à son profit, que l'imagination en ait créé, que le fanatisme en ait exagéré beaucoup? Il n'est pas plus solidaire des extravagances qu'on peut commettre en son nom, que la vraie science ne l'est des abus de l'ignorance, ni la vraie religion des excès du fanatisme. Beaucoup de critiques ne jugent le spiritisme que sur les contes de fées et les légendes populaires qui en sont les fictions. Autant vaudrait juger l'histoire sur les romans historiques ou les tragédies. Point 12. Les phénomènes spirites sont le plus souvent spontanés et se produisent sans aucune idée préconçue chez les personnes qui y songent le moins. Dans certaines circonstances, il en est qui peuvent être provoqués par les agents désignés sous le nom de « médium ». Dans le premier cas, le médium est inconscient de ce qui se produit par son intermédiaire. Dans le second, il agit en connaissance de cause. De là, la distinction des médiums conscients et des médiums inconscients. Ces derniers sont les plus nombreux et se trouvent souvent parmi les incrédules les plus obstinés, qui font ainsi du spiritisme sans le savoir et sans le vouloir. Les phénomènes spontanés ont, par cela même, une importance capitale, car on ne peut suspecter la bonne foi de ceux qui les obtiennent. Il en est ici comme du somnambulisme qui, chez certains individus, est naturel et involontaire, et chez d'autres, provoqué par l'action magnétique. Remarque. Voir le livre des médiums chapitre 5, ainsi que Revue Spirit, exemple, décembre 1865, page 370 et août 1865, page 231. fait de la remarque. Mais que ces phénomènes soient ou non le résultat d'un acte de la volonté, la cause première est exactement la même et ne s'écarte en rien des lois naturelles. Les médiums ne produisent donc absolument rien de surnaturel. Par conséquent, il ne faut aucun miracle. Les guérisons instantanées elles-mêmes ne sont pas plus miraculeuses que les autres effets, car elles sont dues à l'action d'un agent fluidique faisant l'office d'agent thérapeutique, dont les propriétés ne sont pas moins naturelles pour avoir été inconnues jusqu'à ce jour. L'épithète de thaumaturge, donnée à certains médiums par la critique ignorante des principes du spiritisme, est donc tout à fait impropre. La qualification de miracle donnée, par comparaison à ces sortes de phénomènes, ne peut qu'induire en erreur sur leur véritable caractère. Point 13. L'intervention d'intelligence occulte dans les phénomènes spirites ne rend pas ceux-ci plus miraculeux que tous les autres phénomènes qui sont dus à des agents invisibles, parce que ces êtres occultes qui peuplent les espaces sont une des puissances de la nature, puissance dont l'action est incessante sur le monde matériel, aussi bien que sur le monde moral. Le spiritisme, en nous éclairant sur cette puissance, nous donne la clé d'une foule de choses inexpliquées et inexplicables par tout autre moyen, et qui ont pu, dans des temps reculés, passer pour des prodiges. Il révèle, de même que le magnétisme, une loi, sinon inconnue, du moins mal comprise. Ou, pour mieux dire, on connaissait les effets, car ils se sont produits de tout temps, mais on ne connaissait pas la loi, et c'est l'ignorance de cette loi qui a engendré la superstition. Cette loi connue, le merveilleux disparaît, et les phénomènes rentrent dans l'ordre des choses naturelles. Voilà pourquoi les spirites ne font pas plus de miracles en faisant tourner une table ou écrire les trépassés que le médecin en faisant revivre un moribond ou le physicien en faisant tomber la foudre. Celui qui prétendrait, à l'aide de cette science, faire des miracles serait ou un ignorant de la chose ou un faiseur de dupes. Point 14. Puisque le spiritisme répudie toute prétention aux choses miraculeuses, en dehors de lui, y a-t-il des miracles dans l'acception usuelle du mot? Disons d'abord que parmi les faits réputés miraculeux qui se sont passés avant l'avènement du spiritisme et qui se passent au cours de nos jours, la plupart, sinon tous, trouvent leur explication dans les lois nouvelles qu'il est venu révéler. Ces faits rentrent donc, quoique sous un autre nom, dans l'ordre des phénomènes spirites, et comme tels n'ont rien de surnaturel. Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que des faits authentiques et non de ceux qui, sous le nom de miracles, sont le produit d'une indigne jonglerie en vue d'exploiter la crédulité. Non plus que de certains faits légendaires qui peuvent avoir eu dans l'origine un fond de vérité, mais que la superstition a amplifié jusqu'à l'absurde. C'est sur ces faits que le spiritisme vient jeter la lumière en donnant les moyens de faire la part de l'erreur et de la vérité. Dieu fait-il des miracles? Point 15. Quant au miracle proprement dit, rien n'étant impossible à Dieu, il peut en faire sans doute. En a-t-il fait? En d'autres termes, déroge-t-il aux lois qu'il a établies? Il n'appartient pas à l'homme de préjuger les actes de la divinité et de les subordonner à la faiblesse de son entendement. Cependant, nous avons pour critérium de notre jugement, à l'égard des choses divines, les attributs mêmes de Dieu. À la souveraine puissance, il jouait la souveraine sagesse, d'où il faut conclure qu'il ne fait rien d'inutile. Pourquoi donc ferait-il des miracles? Pour attester sa puissance, dit-on? Mais la puissance de Dieu ne se manifeste-t-elle pas d'une manière bien autrement saisissante par l'ensemble grandiose des œuvres de la création? Par la sagesse prévoyante qui préside à ses parties les plus infimes comme aux plus grandes, et par l'harmonie des lois qui régissent l'univers, que par quelque petite et puérile dérogation que savent imiter tous les faiseurs de tours? Que dirait-on d'un savant mécanicien qui, pour prouver son habileté, détraquerait l'horloge qu'il a construite, chef-d'œuvre de science, afin de montrer qu'il peut défaire ce qu'il a fait? son savoir ne ressort-il pas, au contraire, de la régularité et de la précision du mouvement? La question des miracles proprement dit n'est donc pas du ressort du spiritisme. Mais, s'appuyant sur ce raisonnement, que Dieu ne fait rien d'inutile, il émet cette opinion que, les miracles n'étant pas nécessaires à la glorification de Dieu, rien dans l'univers ne s'écarte des lois générales. Dieu ne fait pas de miracles parce que ses lois étant parfaites, il n'a pas besoin d'y déroger. S'il est des faits que nous ne comprenons pas, c'est qu'il nous manque encore les connaissances nécessaires. Point 16. En admettant que Dieu ait pu, pour des raisons que nous ne pouvons apprécier, déroger accidentellement aux lois qu'il a établies, ces lois ne seraient plus immuables. Mais au moins est-il rationnel de penser que lui seul a ce pouvoir. On ne saurait admettre, sans lui dénier la toute-puissance, qu'il soit donné à l'esprit du mal de défaire l'œuvre de Dieu, en faisant de son côté des prodiges à séduire même les élus, ce qui impliquerait l'idée d'une puissance égale à la sienne. C'est pourtant ce que l'on enseigne. Si Satan a le pouvoir d'interrompre le cours des lois naturelles qui sont l'œuvre divine, sans la permission de Dieu, il est plus puissant que Dieu. Donc, Dieu n'a pas la toute-puissance. Si Dieu lui délègue ce pouvoir, comme on le prétend, pour induire plus facilement les hommes au mal, Dieu n'a pas la souveraine bonté. Dans l'un et l'autre cas, c'est la négation d'un des attributs sans lesquels Dieu ne serait pas Dieu. Aussi l'Église distingue-t-elle les bons miracles qui viennent de Dieu des mauvais miracles qui viennent de Satan. Mais comment en faire la différence? Qu'un miracle soit satanique ou divin, ce n'en est pas moins une dérogation aux lois qui émanent de Dieu seul. Si un individu est guéri soi-disant miraculeusement, que ce soit par le fait de Dieu ou de Satan, il n'en est pas moins guéri. Il faut avoir une bien pauvre idée de l'intelligence humaine pour espérer que de pareilles doctrines puissent être acceptées de nos jours. La possibilité de certains faits réputés miraculeux étant reconnue, il en faut conclure que, quelle que soit la source qu'on leur attribue, ce sont des effets naturels dont esprit ou incarné peuvent user, comme de tout, comme de leur propre intelligence et de leur connaissance scientifique, pour le bien ou le mal, selon leur bonté ou leur perversité. Un être pervers, mettant à profit son savoir, peut donc faire des choses qui passent pour des prodiges aux yeux des ignorants. Mais quand ces effets ont pour résultat un bien quelconque, il serait illogique de leur attribuer une origine diabolique.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la suite et fin du chapitre 13. Dieu fait-il des miracles? Suite, point 17. Le surnaturel et les religions, point 18. Et débutons ensemble le chapitre 14, traitant des fluides et plus particulièrement de la nature et propriété des fluides, du point 1 à 3.
La genèse selon le spiritisme, les miracles selon le spiritisme, suite du chapitre 13, caractère des miracles, Dieu fait-il des miracles, point 17. Mais, dit-on, la religion s'appuie sur des faits qui ne sont ni expliqués ni explicables. Inexpliqués peut-être, inexplicables, c'est une autre question. Sait-on les découvertes et les connaissances que nous réserve l'avenir? Sans parler du miracle de la création, le plus grand de tous, sans contredit, et qui est aujourd'hui rentré dans le domaine de la loi universelle, ne voit-on pas déjà, sous l'empire du magnétisme, du somnambulisme, du spiritisme, se reproduire les extases, les visions, les apparitions, la vue à distance, les guérisons instantanées, les suspensions, les communications orales et autres avec les êtres du monde invisible, phénomène connu de temps immémorial, considéré jadis comme merveilleux, est démontré aujourd'hui appartenir à l'ordre des choses naturelles. D'après la loi constitutive des êtres, les livres sacrés sont pleins de faits de ce genre qualifiés de surnaturels. Mais, comme on en trouve d'analogues et de plus merveilleux encore dans toutes les religions païennes de l'Antiquité, si la vérité d'une religion dépendait du nombre et de la nature de ses faits, on ne sait trop celle qui leur porterait. Le surnaturel et les religions. Point 18. Prétendre que le surnaturel est le fondement nécessaire de toute religion, qu'il est la clé de voûte de l'édifice chrétien, c'est soutenir une thèse dangereuse. Si l'on fait reposer les vérités du christianisme sur la base unique du merveilleux, c'est lui donner un appui fragile dont les pierres se détachent chaque jour. Cette thèse, dont d'éminents théologiens se sont fait les défenseurs, conduit droit à cette conclusion que, dans un temps donné, il n'y aura plus de religion possible, pas même la religion chrétienne, si ce qui est regardé comme surnaturel est démontré naturel. Car on aura beau entasser les arguments, on ne parviendra pas à maintenir la croyance qu'un fait est miraculeux quand il est prouvé qu'il ne l'est pas. Or, la preuve qu'un fait n'est pas une exception dans les lois naturelles, c'est lorsqu'il peut être expliqué par ces mêmes lois, et que, pouvant se reproduire par l'entremise d'un individu quelconque, il cesse d'être le privilège des saints. Ce n'est pas le surnaturel qui est nécessaire aux religions, mais bien le principe spirituel, que l'on confond à tort avec le merveilleux, et sans lequel il n'y a pas de religion possible. Le spiritisme considère la religion chrétienne d'un point plus élevé et lui donne une base plus solide que les miracles. Ce sont les lois immuables de Dieu qui régissent le principe spirituel comme le principe matériel. Cette base défie le temps et la science, car le temps et la science viendront la sanctionner. Dieu n'en est pas moins digne de notre admiration, de notre reconnaissance, de notre respect, pour n'avoir pas dérogé à ces lois, grandes surtout par leur immuabilité. Il n'est pas besoin du surnaturel pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû. La nature n'est-elle pas assez imposante par elle-même qu'il faille encore y ajouter pour prouver la puissance suprême? La religion trouvera d'autant moins d'incrédules qu'elle sera de tout point sanctionnée par la raison. Le christianisme n'a rien à perdre à cette sanction. Il ne peut au contraire qu'y gagner. Si quelque chose a pu lui nuire dans l'opinion de certaines gens, c'est précisément l'abus du merveilleux et du surnaturel. Point 19. Si l'on prend le mot « miracle » dans son acception étymologique, dans le sens de choses admirables, nous avons sans cesse des miracles sous les yeux. Nous les aspirons dans l'air et nous les foulons sous nos pas, car tout est miracle dans la nature. Veut-on donner au peuple, aux ignorants, aux pauvres d'esprit, une idée de la puissance de Dieu? Il faut la leur montrer dans la sagesse infinie qui préside à tout, dans l'admirable organisme de tout ce qui vit, dans la fructification des plantes, dans l'appropriation de toutes les parties de chaque être à ses besoins selon le milieu où il est appelé à vivre. Il faut leur montrer l'action de Dieu dans le brin d'herbe, dans la fleur qui s'épanouit, dans le soleil qui vivifie tout. Il faut leur montrer sa bonté dans sa sollicitude pour toutes les créatures, si infimes qu'elles soient, sa prévoyance dans la raison d'être de chaque chose, dont aucune n'est inutile, dans le bien qui sort toujours d'un mal apparent et momentané. Faites-leur comprendre surtout que le mal réel est l'ouvrage de l'homme et non celui de Dieu. Ne cherchez pas à les épouvanter par le tableau des flammes éternelles, auxquels ils finissent par ne plus croire et qui leur font douter de la bonté de Dieu. Mais encouragez-les par la certitude de pouvoir se racheter un jour et réparer le mal qu'ils ont pu faire. Montrez-leur les découvertes de la science comme la révélation des lois divines et non comme l'œuvre de Satan. Apprenez-leur enfin à lire dans le livre de la nature sans cesse ouvert devant eux. Dans ce livre inépuisable où la sagesse et la bonté du Créateur sont inscrites à chaque page. Alors ils comprendront qu'un être si grand, s'occupant de tout, veillant à tout, prévoyant tout, doit être souverainement puissant. Le laboureur le verra en traçant son sillon, et l'infortuné le bénira dans ses afflictions, car il se dira « Si je suis malheureux, c'est par ma faute ». Alors les hommes seront vraiment religieux, rationnellement religieux surtout, bien mieux que s'ils croient à des pierres qui suent le sang ou à des statues qui clignent des yeux et versent des larmes. Chapitre 14. Les fluides. Nature et propriété des fluides. Éléments fluidiques. Point 1. La science a donné la clé des miracles qui ressortent plus particulièrement de l'élément matériel, soit en les expliquant, soit en démontrant l'impossibilité par les lois qui régissent la matière. Mais les phénomènes où l'élément spirituel a une part prépondérante, ne pouvant être expliqués par les seules lois de la matière, échappent aux investigations de la science. C'est pourquoi ils ont, plus que les autres, les caractères apparents du merveilleux. C'est donc dans les lois qui régissent la vie spirituelle qu'on peut trouver la clé des miracles de cette catégorie. Point 2. Le fluide cosmique universel est, ainsi que cela a été démontré, la matière élémentaire primitive dont les modifications et transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature. Entre parenthèses, voir chapitre 10. Fermez la parenthèse. En tant que principe élémentaire universel, il offre deux états distincts, celui d'éthérisation ou d'impondérabilité, que l'on peut considérer comme l'état normal primitif, et celui de matérialisation ou de pondérabilité, qui n'est en quelque sorte que consécutif. Le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible. Mais là encore, il n'y a pas de transition brusque, car on peut considérer nos fluides impondérables comme un terme moyen entre les deux états. Entre parenthèses, voir chapitre 4, numéro 10 et suivant. Fermez la parenthèse. Chacun de ces deux états donne nécessairement lieu à des phénomènes spéciaux. Au second appartiennent ceux du monde visible et au premier ceux du monde invisible. Les uns appelés phénomènes matériels sont du ressort de la science proprement dite. Les autres, qualifiés de phénomènes spirituels ou psychiques, parce qu'ils se lient plus spécialement à l'existence des esprits, sont dans les attributions du spiritisme. Mais, comme la vie spirituelle et la vie corporelle sont en contact incessant, les phénomènes de ces deux ordres se présentent souvent simultanément. L'homme, à l'état d'incarnation, ne peut avoir la perception que des phénomènes psychiques qui se lient à la vie corporelle. Ceux qui sont du domaine exclusif de la vie spirituelle échappent au sens matériel et ne peuvent être perçus qu'à l'état d'esprit. Remarque. La dénomination de phénomène psychique rend plus exactement la pensée que celle de phénomène spirituel, attendu que ces phénomènes reposent sur les propriétés et les attributs de l'âme, ou mieux, des fluides périspiritaux qui sont inséparables de l'âme. Cette qualification les rattache plus intimement à l'ordre des faits naturels régis par des lois. On peut donc les admettre comme effets psychiques sans les admettre à titre de miracle. Fin de la remarque. Point 3. À l'état d'éthérisation, le fluide cosmique n'est pas uniforme. Sans cesser d'être éthéré, il subit des modifications aussi variées dans leur genre et plus nombreuses peut-être qu'à l'état de matière tangible. Ces modifications constituent des fluides distincts qui, bien que procédant du même principe, sont doués de propriétés spéciales et donnent lieu aux phénomènes particuliers du monde invisible. Tout étant relatif, ces fluides ont pour les esprits, qui sont eux-mêmes fluidiques, une apparence aussi matérielle que celle des objets tangibles pour les incarnés, et sont pour eux ce que sont pour nous les substances du monde terrestre. Ils les élaborent, les combinent pour produire des effets déterminés, comme font les hommes avec leurs matériaux, toutefois par des procédés différents. Mais là, comme ici-bas, il n'est donné qu'aux esprits les plus éclairés de comprendre le rôle des éléments constitutifs de leur monde. Les ignorants du monde invisible sont aussi incapables de s'expliquer les phénomènes dont ils sont témoins et auxquels ils concourent souvent machinalement, que les ignorants de la Terre le sont d'expliquer les effets de la lumière ou de l'électricité, de dire comment ils voient et entendent.
Quelques mots sur une nouveauté du mouvement spirit francophone. La librairie spirit francophone se propose de rassembler un maximum d'ouvrages écrits en français sur le spiritisme ou sur toute autre forme de spiritualisme se rapprochant de la philosophie spirit. Le but premier demeure la diffusion du spiritisme. La librairie imprime donc les livres de base d'Alan Kardec et des pionniers du spiritisme, mais en plus, en collaboration avec l'encyclopédie Spirit, la librairie Spirit francophone propose de rééditer des livres rares ou disparus. C'est pourquoi sur le site de l'encyclopédie, un sondage est proposé afin que les habitués du site puissent voter pour les livres qu'ils aimeraient voir réédités. Un nouveau sondage devrait être proposé tous les 3 mois à la librairie Spirit francophone et elle vous invite à aller sur son site, mais aussi celui de l'encyclopédie Spirit à l'adresse http://www.spiritisme.net pour voter bien sûr, mais découvrir les trésors oubliés que renferme la littérature spirit francophone. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir vous rendre sur le site de la librairie Spirit francophone à l'adresse suivante www.libsf.com. 11e séminaire organisé par l'Union Spirit Belge pour la francophonie en collaboration avec le mouvement Spirit francophone et le Conseil Spirit français. Sur le thème central, la médiumnité et Chico Xavier et son œuvre. Les samedis 29 mai de 9h à 18h et le dimanche 30 mai 2010 de 9h à 12h30. Au château de Wégimont, 76, chaussée de Wégimont à 4630 Soumagne, à 20 km de Liège. Cette année, et pour la 4e fois consécutive, nous serons donc au château de Wégimont, à proximité de Liège, pour notre séminaire annuel. Comme bon nombre d'entre vous le savent déjà, ce domaine est un magnifique domaine provincial. Le château de Wégimont offre d'ailleurs un cadre exceptionnel, tant pour les enfants qui y sont cordialement invités que pour les adultes. Entouré de verdure et à proximité d'un parc d'attractions familiales, il est accessible aux participants du séminaire. C'est ainsi que, comme à l'accoutumée, nous aurons la possibilité de loger sur place et de nous restaurer pour un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre ensemble un moment privilégié de fraternité et d'échange, tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver pour la 4e fois en famille, parents, enfants, petits-enfants. Dans ce but, diverses activités seront organisées pour les enfants. Cette année, nous ne pouvions pas ne pas y parler de Chico Xavier, célèbre médium brésilien, dont on fête cette année le 100e anniversaire de sa naissance. Sa vie et son œuvre reflètent un travail d'abnégation hors du commun. Une partie de ce séminaire sera aussi l'occasion d'aborder les thèmes comme la médiumnité et l'obsession, le tout dans un échange constant entre les orateurs et le public. Ceux qui logent, le logement n'est pas obligatoire, seront attendus dès le vendredi soir. Pour nous permettre d'organiser au mieux cet événement, ne tardez surtout pas à vous inscrire en précisant le nombre de places qu'il faut vous réserver pour ce week-end. La date ultime pour l'inscription concernant le logement est le 20 mai 2010. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre chronologique d'arrivée. Vous pouvez remplir le formulaire adéquat en vous rendant sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse suivante www.spirit.be. Nous vous y attendons très nombreux. Communiqué du mouvement Spirit francophone. En 2008, nous avons réalisé le premier congrès de médecine et spiritualité à Liège, en Belgique. En 2009, nous étions à Toulouse, en France, et cette année, nous sommes de retour dans l'accueillante ville de Liège. Notre souhait est d'unir nos efforts dans le but de diffuser le plus largement possible un nouveau paradigme dans le domaine des soins de santé du XXIe siècle en y intégrant la spiritualité. Les thèmes de cette année porteront sur les extraordinaires contributions scientifiques que le spiritisme peut apporter aux différents domaines de la santé humaine, comme les connaissances sur la vraie guérison de l'âme, les révélations sur les fonctions du cerveau et l'action de l'esprit sur la matière, le pouvoir thérapeutique des radiations humaines, la façon de vieillir avec la qualité de vie spirituelle, l'aide pour surmonter l'alcool et les drogues, le vrai sens spirituel des épidémies, l'aide effective pour surmonter les troubles mentaux, en particulier pour la dépression, et bien entendu la compréhension du vrai sens de la relation médecin-patient. Nous avons dès lors le plaisir de vous inviter à ce troisième congrès, qui aura lieu au Palais des Congrès de Liège les 5 et 6 juin 2010. Vous trouverez tous les renseignements sur notre site à l'adresse suivante www.lmsf.org. Nous comptons sur votre présence. Autre activité en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. En Belgique, tout d'abord, le jeudi 29 avril 2010 à 19h30, le CESAC à Bruxelles organise une conférence publique sur le thème « Gestion, accouchement et maternité à la lumière de la réincarnation ». Le conférencier sera le docteur André Moreira. Celle-ci aura lieu au siège social du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, 134 rue Louis App à 1040, Bruxelles, capitale. Inscription via l'adresse courriel suivante csacbruxelles@gmail.com. Au Grand-Duché de Luxembourg, de lundi 7 juin 2010 à 19h30, le groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg organise une conférence sur le thème « La joie de vivre ». Le conférencier sera Divaldo Pereira Franco. Celle-ci aura lieu au Centre culturel de Limpersbeek, 49 rue Hermesinde, 1469 Luxembourg. Pour renseignements et inscriptions, via courriel alankardeclux@yahoo.fr. En France, l'Association parisienne d'études spirites s'associe à l'Union spirite française et francophone pour vous inviter aux deux conférences qui auront lieu à Paris le dimanche 2 mai 2010. La première conférence sera de 15h à 16h45 sur le thème « Une vision médico-spirite de l'infection par le virus HIV-SIDA ». Le conférencier sera le docteur André Moreira. La deuxième conférence sera de 17h15 à 19h sur le thème « Énergie sexuelle, sexualité ». Le conférencier sera Olinta Fraga, psychologue clinique. Local 10 rue Fulton à Paris 13e, métro ligne 6, Nation Étoile, station quai de la gare. La participation aux frais sera de 5€. L'accueil s'effectuera à partir de 13h30. Si dans votre entourage vous avez des personnes intéressées par ces thématiques, parlez-en et invitez-les. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'association par téléphone en formant depuis la France le 0 141 931 708 ou via le site internet http://www.apes.asso.fr. L'association Le Chemin propose le samedi 29 mai à 14h30, une conférence sur le thème « Médecine et spiritualité ». Celle-ci aura lieu à la salle AEP 5 rue de l'Artisanat à Grézieux-la-Varenne. Pour renseignements et inscriptions, merci de prendre contact par téléphone en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou via le site de l'association www.le-chemin.org. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.